Bien, on va aborder maintenant un pan très douloureux de l'histoire du Québec, l'adoption sous le sceau du secret, une réalité qui a touché près de 300 000 enfants entre 1900 et 1972. Et nous recevons donc pour en parler Renée Tanguay, autrice de « Retrouvailles sous le sceau du secret », qui témoigne, bien, c'est un roman, mais qui est basé sur son histoire, puis elle va nous expliquer ça. Bonjour Renée.
Bonjour.
Bienvenue à l'émission.
Merci de m'accueillir.
Bon, puis il y a bien d'autres choses qu'on peut dire de vous, de toi, parce que tu as travaillé aussi à l'émission de Claire Lamarche.
Oui, c'est complètement un hasard, parce que quand j'ai commencé avec Claire en 97, c'était vraiment pas dans le but de... C'était vraiment pas dans le but un jour de faire des retrouvailles, là. Mm-hmm. C'était parce que je voulais vraiment travailler avec Claire. Pour moi, c'était l'émission sur laquelle il fallait que je travaille. Et donc, et c'est en 99 que j'ai fait la demande pour retrouver mes racines biologiques. Mmh. Alors, et c'est pas par l'entremise de l'émission que je les ai retrouvées. J'ai fait vraiment la demande à Québec, en bonne et due forme.
Oui.
Et ils ont recommuniqué avec moi et c'est ça.
Mais ce que je trouve intéressant, c'est que tu es impliquée depuis longtemps dans ce mouvement-là, puis d'en faire une histoire, c'est quand même intéressant, justement, parce que tu as été adoptée à 8 mois par des parents aimants. Je pense que tu aimes tes parents adoptifs, là, c'est
énormément.
Clair. Qu'est-ce qui t'a fait ressentir le besoin de connaître ta mère adoptive?
C'est drôle parce que c'est justement par l'entremise d'une émission de Claire. Je m'occupais en 99, c'est moi qui devais mener le show de la fête des mères. Et le thème, c'était « Pour la fête des mamans, je veux retrouver mon enfant ». Et je sais pas, ça m'a particulièrement interpellée. Et suite à ça, j'ai envoyé ma demande. Et c'est le 5 janvier 2000 que j'ai reçu l'appel qu'elle venait de parler avec ma mère.
Oui.
Et je retrouvais aussi toute une famille.
Comment ça s'est passé?
Ça s'est passé, c'est une aventure qui a duré 8 ans et demi.
Ah bon?
Et jusqu'à la mort de mon père biologique. Et c'était un très, très, très long tour de montagne russe.
Oui. Pourquoi?
Vraiment.
Okay. Bon, allons-y d'abord, le désir de retrouver vos parents biologiques, c'est arrivé aussi à la naissance de ta fille, c'est ça?
Ma fille, je l'ai eue en 90.
Oui.
Alors, c'est pas tout à fait ça, mais ma fille, ça m'a quand même oui, quelque part, il y a de ça aussi. Parce que là, j'étais maman, et donc, je pouvais comprendre qu'est-ce qui s'est passé, moi, quand moi, enfant, je suis née.
Oui. Hein?
Parce que ma fille, elle était bien entourée, elle, quand elle est née. Mais moi, j'étais à une crèche. Est-ce qu'on m'a bercée? Est-ce qu'elle m'a serrée dans ses bras? Est-ce que j'ai vu... Alors, c'est tout ça, tu sais, je veux dire, qu'on se demande. Alors, sans doute, la naissance de ma fille, plus l'émission de Claire, ça a fait que j'ai décidé de les chercher. Et je cherchais ma mère, et j'ai trouvé toute la famille. Alors, c'était plus que le client demandait, dans le fond.
Je vois que ça te touche énormément. Si des questions sont trop intimes, tu me le diras, mais tu as dit tout à l'heure que c'était des montagnes russes émotionnelles. Pourquoi?
Parce que lorsqu'un enfant retrouve sa famille biologique, la plupart du temps, personne ne savait qu'il existait, cet enfant-là. Alors moi, quand je suis débarquée, à part mes parents, personne ne savait mon existence. Alors, tu débarques carrément comme un chien dans un jeu de quilles. Et alors, il y a de tout. Il y a des gens qui sont extrêmement contents que tu débarques. Il y a des gens qui sont plus ou moins contents. Ça sème de la jalousie. Ça sème... je peux aussi comprendre, là, ça bouleverse des vies, tu sais. Mm-hmm. Parce que ils n'étaient pas au courant du tout de mon existence et j'étais quand même rendue à 45 ans.
Ouais.
Donc, tu retrouves une famille vraiment déjà organisée, structurée, tout ça. Et toi, tu arrives en tant qu'aînée aussi. Hein?
Mmh.
Et là, tu prends la place de celle qui est l'aînée, celle qui est la plus jeune. Et c'est comme si on vient grabiller un petit peu des petits morceaux de l'attention qu'elle avait, particulièrement avec mon père. Donc, tout ça, c'est... Quand je dis c'est une quête émotionnelle sur fond historique, C'est que moi, je n'ai pas voulu écrire ma vie. Ça ne m'intéressait pas du tout. Alors, je voulais d'emblée faire un roman. Et c'est en cherchant dans les archives des Sœurs du Bon Pasteur que là, j'ai découvert des petites perles. Mmh. Alors, comme tu as lu mon livre, tu sais que je mets en scène quelque chose que personne ne sait au Québec. Même les historiens l'ignoraient. Hein? Je ne sais pas si je peux en parler.
Oui, tu peux en parler. Sans trop que tu veux le gâcher, tu peux en parler.
Alors, quand je découvre dans les archives des Sœurs du Bon Pasteur que quand une fille, peu importe la fille qui entrait à la crèche pour porter et accoucher de son enfant, peu importe son statut social, elle changeait son nom. Elle devait porter un pseudonyme. Mais les filles qui étaient issues d'un milieu aisé, d'une famille bourgeoise, devaient non seulement changer de nom, mais elles devaient se voiler. Elles avaient premièrement une chambre privée, ce qu'on appelait la chambre des privés, et dès qu'elles sortaient de cette chambre-là, elles devaient se voiler. C'est pas des farces, là. T'sais? Et c'était un voile assez épais, bleu marine, pour se distancier des sœurs qui, lui, étaient noires. Et comme je te dis, dès qu'elle sortait de la chambre, elle devait se voiler.
Pour ne pas être reconnue, donc.
Pour ne pas être reconnue ouais. du tout. L'anonymat à tout prix. Pour sauver la réputation des parents.
Et c'est choquant, oui.
Et donc, elle faisait tout avec le voile. Marcher, se nourrir, aller à la prière, se confesser. Elles ont même eu leurs examens gynécologiques avec le voile. Elles ont même accouché voilées. Alors, c'est l'époque du péché, c'est l'époque des enfants qui sont, c'est ça, des enfants du péché qu'on doit cacher.
Toi, quand tu as retrouvé ta mère, c'était comment, cette première rencontre?
La première chose, il y a eu un appel téléphonique, okay. tout d'abord. C'est-à-dire qu'on s'est écrit, on s'est envoyé des photos. Et là, ensuite, il y a eu un appel téléphonique. C'est d'abord à elle que j'ai parlé. Elle s'est nommée par son prénom. Et là, elle s'est mise à parler. C'était comme un petit moulin à parole. Elle devait être très nerveuse. Et moi, j'écoutais, mais j'étais comme dans un état second, je crois. Mais c'est quand mon père a pris le téléphone et qu'il m'a dit, il avait la même voix que mon autre père, même voix basse, feutrée.
Tu parles de ton père adoptif, oui?
Oui, mon père adoptif. Oui. Alors, j'avais l'impression, en même temps que mon père, qui était malheureusement décédé à ce moment-là, revenait me parler. Mais en même temps, c'est mon vrai père qui me parle. Et là, il me dit, « Allô, René, c'est ton papa qui te parle. »
Ah, mon Dieu.
Là, j'aime autant dire que c'est là que j'ai pleuré.
Ouais.
Ouais, c'est là que les larmes sont sorties. Ouais.
C'est important, cet accueil-là, toi qui as vécu comme enfant abandonné, finalement?
C'est-à-dire que j'ai tellement été aimée, choyée, dorlotée dans ma famille adoptive.
Oui.
Ma mère, mes parents ont eu 5 filles. Et ma sœur, qui est avant moi, avait 9 ans plus que moi. Mais je ne me suis jamais sentie de trop. Jamais senti comme sur le bord de la porte, là.
Ouais.
Jamais, jamais, jamais. J'ai été vraiment... la petite Renée, là, c'était... j'ai été vraiment très, très aimée. Alors, d'ailleurs, avant, quand j'ai décidé de le faire, j'en ai averti ma mère aussi. Hein.
Ouais. Tout le monde était d'accord, ça a fonctionné?
Oui, oui, ouais. oui. Même mes sœurs, elles étaient d'accord, elles étaient contentes pour moi que je retrouve mes racines. Mais elles aussi, je les ai rassurées. Vous restez mes sœurs, là.
Et les relations avec la famille biologique, ça s'est réglé, ça s'est amélioré?
Pas vraiment.
C'est difficile, hein, encore?
Ça a été difficile.
Oui.
Et après le décès de mon père, c'est là que j'ai décidé de couper les liens.
Oui.
Parce que c'était trop douloureux pour moi.
Je comprends. Revenons au livre. Donc, ce n'est pas ton histoire, mais c'est basé sur ce que tu as vécu et tu as fait un roman. Rapidement, quelle est l'histoire que tu racontes là-dedans?
Ben, je raconte l'histoire de Marie qui, une des conséquences d'un enfant qui est abandonné à la naissance, souvent il va être dépendant affectif, mais dans le cas de Marie, elle fait de l'auto-sabotage. C'est-à-dire qu'elle, croyant qu'on ne l'a pas assez aimée pour la garder ou pour essayer de la retrouver, bien, elle sabote sa relation et elle cherche l'amour, mais elle ne la cherche pas vraiment parce qu'elle ne croit pas qu'elle le mérite.
Mmh. C'est terrible, mais c'est tellement des sentiments qui sont communs souvent à ce genre de situation quand même.
Mais moi, pourquoi aussi j'ai écrit ce livre-là? Pour plein de raisons. Je voulais rendre hommage à mes parents adoptifs, à mon père biologique, à ma fille et aux milliers d'enfants. Près de 300 000 enfants ont été donnés en adoption au Québec. Alors, c'est pas rien. Il y a encore 14 700 personnes présentement qui cherchent encore leurs racines. Alors, moi, ce que je veux dire, c'est que peu importe ce qu'on trouve, on se trouve, nous. On se reparente et on devient, on met comme un trait sur le passé et on vit mieux notre présent et notre avenir. J'y crois vraiment profondément.
René Tanguay, donc, parlons de ce livre. Il s'appelle Retrouvailles, sous le sceau du secret. Oui. Disponible, comment on peut se le procurer?
On peut se le procurer sur le site de Bouquinbec. On peut se le procurer aussi sur leslibraires.ca. Il est aussi dans quelques librairies, la librairie Raffin à la place Versailles, Raffin sur Saint-Hubert, la librairie Alire à Longueuil et Le Fureteur à Saint-Lambert.
René Tanguay, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup.